Bonjour à tous, c'est une question qu'on peut être amené à se poser lorsqu'on est en montagne, dans une négociation professionnelle ou même chez son banquier. On pourrait presque se la poser d'ailleurs chaque matin en se levant et pour ainsi dire chaque seconde de notre existence d'être humain, entouré de dangers permanents plus ou moins perçus, courage, prise de risque, jusqu'où ? Eh bien, c'est cette question si cruciale et si banale à la fois que nous allons nous poser aujourd'hui à l'occasion d'une conférence au Collège supérieur où nous avons posé nos studios aujourd'hui pour tenter d'y répondre avec nous trois personnes, un alpiniste, un pilote de chasse et une philosophe. Alors on va démarrer par l'alpiniste. Henri Bizot, bonjour.
Bonjour.
Si vous voulez bien prendre un micro, merci d'être avec nous. Depuis 30 ans, Henri Bizot, vous enchaînez les expéditions en haute montagne, en Himalaya, dans les Alpes, dans la cordillère des Andes. Vous avez à votre actif plusieurs 7000, plusieurs 6000 mètres. C'est un décompte impressionnant. Vous êtes membre de la Société des explorateurs français. Vous avez une vie avant, vous avez été militaire. Vous étiez ancien colonel de l'armée de terre et vous avez rejoint la vie civile en 2005. Ce que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes lyonnais. Évidemment, vous avez 52 ans, vous avez 6 enfants et vous continuez à enchaîner les expéditions. Et ce soir, pour ouvrir cette réflexion sur le risque et cette limite du risque, on va se plonger avec vous dans une de ces expéditions. C'est une expédition qui a eu lieu au Pérou, dans la Cordillère Blanche. C'était en juin 2008. Pourquoi avez-vous choisi cette expédition, Henri Bizot ?
Mesdames et messieurs, bonjour. Donc je vous propose de répondre à la question « la prise de risque jusqu'où ?» à partir d'un cas concret que j'ai vécu, une des expéditions haute montagne que je réalise à titre amateur, que j'ai réalisée en 2008 et qui est riche d'enseignements. Nous sommes le 12 juin 2008. Je pars réaliser ma quatrième expédition au Pérou dans la Cordillère Blanche, un massif montagneux très réputé des Andes, avec un Argentin avec qui nous avons déjà réalisé 4 belles expéditions ensemble dans l'Himalaya et dans les Andes, nous avons décidé de faire les ascensions de 2 montagnes. Un premier sommet de plus de 5000 mètres qui s'appelle le Chacha pour s'acclimater. Et surtout, l'objectif majeur est le Toklararu, une splendide pyramide de glace dont nous voulons atteindre le sommet par une voie directe dans sa face ouest, une voie ou un itinéraire en montagne, côté difficile, composé d'une face en glace de 800 mètres de dénivelé ou de hauteur, et incliné de 60 degrés à 75 degrés. Un bel enjeu que nous avons choisi, estimant qu'il constitue un défi à la portée de notre cordée. À noter que cette expédition, je l'ai associée à une action d'entraide, de solidarité, au profit d'une association que certains d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. Ces derniers mois, comme avant chaque départ, j'ai consacré du temps pour m'entraîner physiquement, m'acclimater à l'altitude, pour préparer tout l'équipement de manière minutieuse. Bref, une longue période de préparation au cours de laquelle il a fallu anticiper, c'est-à-dire se donner toutes les chances de réussir l'objectif. Et l'objectif en montagne, c'est atteindre le sommet, en redescendre et surtout revenir entier chez soi. Nous sommes arrivés à Huaraz, qui est la ville principale de la Cordillère Blanche, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Là, nous nous sommes d'abord informés sur les conditions dans la montagne et nous entendons de la part de locaux que les conditions sont sèches et que le Chacha, qui était notre objectif de 5000 mètres, est dangereux cette année. Nous décidons donc de ne pas y aller et de tenter un autre sommet de plus de 5000 mètres appelé Ishinka, plus facile, moins intéressant, mais qui nous permettra de nous acclimater, c'est-à-dire habituer notre organisme à l'altitude en vue de l'ascension de notre objectif majeur, dont je rappelle que c'est le Toklararu par sa face ouest. L'ascension de l'Ishinka réussie, nous décidons de gravir donc le Toklararu. Les conditions dans la montagne étant incertaines, nous n'allons pas sur la face ouest directement, mais nous allons tout d'abord sur sa voie normale. Plus facile, car à partir de celle-ci, nous devrions avoir un bon aperçu des conditions dans la face ouest, qui est notre objectif, et nous pourrons aussi parfaire notre acclimatation. Au cours de l'ascension de cette voie normale, à quelques dizaines de mètres du sommet, l'itinéraire est barré par une importante crevasse. Nous tentons de la franchir par divers endroits. Le risque majeur, ce n'est pas la crevasse, mais la qualité de la neige, sans consistance, pas possible, difficile de planter les doubles piolets. Nous avions eu l'expérience de ce type de neige, bien caractéristique des Andes, lors de notre redescente d'une autre montagne péruvienne en 2001. Souvenir épique. nous prenons ensemble la décision de ne pas poursuivre. Je tiens à insister sur le fait que c'est la bonne décision. La montagne, la nature, il faut les respecter, car en finale, elles auront le dernier mot. Il faut savoir renoncer après avoir estimé les risques. Si les conditions dans la montagne ne sont pas bonnes, si les conditions météo risquent de se détériorer, si la forme physique et l'acclimatation ne sont pas suffisantes, si la cordée n'est pas en forme. Mais c'est une décision toujours particulièrement difficile à prendre. Après toute cette longue préparation, ce long déplacement depuis Paris, et surtout le sommet est bien ancré dans la tête, il y a une forte motivation pour le sommet. Mais malgré cela, il faut toujours avoir une petite case sécurité dans la tête pour pouvoir anticiper les dangers, les détecter, les analyser, les estimer et prendre en commun au sein de la cordée la bonne décision au bon moment, parce qu'après, il risque d'être tard.
Alors Henri Bizot, j'imagine que ça ne doit pas être facile de renoncer, c'est une décision difficile à prendre, mais des décisions, il y en a bien d'autres à prendre pendant cette expédition.
De retour au camp de base, nous apprenons qu'un autre imprévu vient perturber cette expédition. Mon compagnon de cordée argentin est contraint de retourner dans son pays. Je décide donc de poursuivre avec deux autres grimpeurs argentins. Une forte tempête ravage alors toute la cordillère blanche. Il ne serait pas prudent d'aller sur la face ouest du Toclararu. Elle pourrait être dangereuse après ces chutes de neige. Nous allons donc sur une autre montagne de 6300 mètres appelée Chopicalqui. Lors de son ascension vers le sommet, nous sommes confrontés à une quilité de neige avalancheuse et les risques s'accroissent au fur et à mesure de la montée. Nous prenons ensemble la décision de ne pas poursuivre, vraiment démoralisant. Mais ce fut la bonne décision, je dirais même plus, c'est facile à dire, plus dur à exécuter, moins avec l'âge. Il faut savoir relativiser et positiver une telle décision, ne pas la regarder uniquement sous l'angle de l'échec, car nous rentrons dans le monde de l'incertitude. Si nous avions continué, qu'est-ce qui aurait pu se passer compte tenu des conditions de neige? L'un d'entre nous n'aurait-il pas fait le pas de trop qui aurait déclenché l'avalanche? Mais j'avoue que néanmoins qu'à ce stade, après ces aléas, je me suis posé la question d'arrêter et de retourner en France. Le lendemain, la nuit portant conseil, lors du long déplacement en bus local vers Huaraz, je décide de persévérer et l'aventure se poursuit. Je décide d'aller tenter mon objectif majeur, le Toclararu par sa face ouest.
Alors, on l'a compris, Henri Bizot, vous êtes persévérant, vous décidez malgré tout de continuer, mais il vous faut trouver un partenaire de cordée, de confiance, pour atteindre votre objectif.
À Huaraz, je consacre 2 jours donc, pour trouver un grimpeur qui soit suffisamment expérimenté et motivé pour se rendre sur cette voie. Je rencontre un certain nombre de Péruviens et décide de partir avec Maximino, un grimpeur qui est aussi guide local. Notre petite équipe, à laquelle s'est joint Abraham, un porteur, monte au camp de base, puis à un camp d'altitude, au pied de la face ouest du Toclararu. En faisant le choix, en quelques heures, de partir avec Maximino, ce Péruvien que je ne connaissais pas, je lui accorde ma confiance sur ce qu'il me dit, ses paroles concernant ses capacités techniques et physiques, sa motivation, son aptitude à prendre en commun les bonnes décisions au bon moment. Et en retour de cette confiance que je lui accorde, j'attends de lui que dans l'action, il sache tenir ses paroles. Et inversement, de son côté, il m'accorde sa confiance. La base de l'engagement de l'équipe, c'est la confiance mutuelle. 3 heures du matin, donc depuis ce camp d'altitude, c'est le départ pour le sommet. Lors d'une telle ascension, il faut que chaque membre de la cordée se donne au maximum, physiquement et techniquement, soit en permanence vigilant pour ne pas tomber, joue son rôle au sein de la cordée qui est d'assurer l'autre, fasse preuve de persévérance pour tendre vers l'objectif, malgré l'altitude, la fatigue, le froid, le vent, qu'il y ait une entraide mutuelle en cas de difficulté d'un des membres, que toute décision soit prise en commun, car en final c'est l'équipe qui atteindra l'objectif. Et ensemble, avec Maximino, nous atteignons le sommet de la montagne, par sa voie directe en face ouest, qui était mon objectif majeur. Une grande joie, je l'avoue, après tous les aléas de début d'expédition. Mais la nuit commence à tomber, il faut redescendre. Nous décidons d'emprunter la voie normale. Avec d'autant plus de vigilance que nous sommes fatigués, nous descendons progressivement la montagne, 2 jours, puis 2 nuits, et rejoignons le camp d'altitude 17 heures après l'avoir quitté. Pour conclure, entreprendre une expédition, c'est s'engager dans le monde de l'incertitude et que d'imprévus au cours de cette expédition. Bien préparé, je partais d'autant mieux armé pour m'engager dans les montagnes péruviennes, faire face à ces dangers, augmentant ainsi la probabilité de chance d'atteindre l'objectif. Lors de l'expédition, il a fallu prendre des décisions, parfois seul, lorsque j'étais dans la vallée, et toujours en équipe, lorsque nous étions dans les montagnes, toutes de façon volontaire et consciente. Dans certaines situations, la perception du risque encouru m'a conduit ou nous a conduit à décider de ne pas le prendre, soit par défaut de maîtrise de ce risque, soit parce que sa probabilité d'occurrence était estimée trop élevée. Dans d'autres situations, il a été estimé que la probabilité d'occurrence du risque était suffisamment faible pour lui faire face au danger, et donc de prendre la décision de poursuivre vers l'objectif. En conclusion, à la question « la prise de risque jusqu'où ?», je réponds « la limite, c'est la vie de l'autre et sa propre vie. La raison profonde de toute décision, c'est le respect de la vie. »
Merci beaucoup, Henri Bizot. Merci de nous avoir fait voyager, plonger dans les coulisses de cette expédition. On aura l'occasion d'en parler un peu plus dans le deuxième temps de cette émission. On a déjà pris un peu de hauteur avec vous. On est monté à 6-7 000 mètres. On va en prendre encore plus avec vous, Bernard Huerté. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Bernard Huerté, vous êtes colonel de l'armée de l'air. Vous êtes pilote de chasse. Vous avez commandé un escadron de chasse, notamment pendant la guerre au Kosovo. Et aujourd'hui, vous êtes représentant du ministère de la Défense auprès du MEDEF. Alors j'imagine qu'en tant que pilote de chasse, le risque et la prise de risque que vous connaissez bien. J'aimerais qu'on prenne le temps tout de suite avec vous, tout simplement, d'entendre votre définition du mot « risque ». Comment le définissez-vous ?
Alors oui, bien sûr, je vais pouvoir illustrer au travers notamment des questions qui pourraient être posées sur l'activité aérienne, qui est forcément une activité risquée. Avant de parler de tout ça, je pense que pour moi, dans tous les cas, je souhaiterais donner une définition et la différence que je fais entre le risque, la prise de risque et le courage, qui sont pour moi deux choses en fait différentes. Pourquoi ? Parce que le risque, pour moi, c'est tout d'abord une appréciation d'une situation. Donc, et dans cette situation, il peut y avoir des variables extérieures, le contexte, la situation dans laquelle on œuvre, donc des variables exogènes, comme on pourrait dire, et des variables plus liées à l'être, des variables endogènes, l'homme. Dans un avion, en fait, quand on vole à 900 km/h, évidemment, c'est dangereux, parce que ça va vite, parce qu'il peut y avoir des montagnes, parce que voilà. Mais c'est aussi dangereux parce que le pilote, à l'intérieur de l'avion, il fait ou il est en possibilité, en capacité de faire des erreurs. Et donc, le risque est lié aussi à l'être lui-même.
Et des erreurs, il en fait beaucoup.
Et des erreurs, il en fait beaucoup. Statistiquement, mais c'est, je pense, même on prend un étudiant, n'importe qui, on dit qu'on fait à peu près 7 à 10 erreurs par heure. Alors c'est sûr, il y a des erreurs qui ne portent pas conséquence et que l'on corrige sans même se rendre compte qu'on les fait. Le problème, c'est quand, justement, quand on est à 900 km/h, ça va un peu vite et donc on est obligé de répondre rapidement. Et ça peut avoir des conséquences lourdes. Mais cette erreur, elle est intrinsèque. Et c'est d'ailleurs ces erreurs sur lesquelles on s'appuie pour corriger. C'est Herriot, je crois, qui disait que dans tous les cas, on aura plus appris avec des erreurs qu'avec des vérités vraies. Ben, bien sûr, parce que c'est l'erreur qui fait avancer. Donc le risque, c'est avant tout pour moi une appréciation d'une situation, alors que le courage, c'est lié à l'être. C'est sa capacité à réagir face à une situation de risque. En clair, on peut être dans une situation très risquée et avoir une personne courageuse ou pas. La situation, elle est toujours la même. La réponse ne sera pas la même. Donc je vais peut-être parler au départ de l'appréciation du risque avec la spécificité liée à l'activité aérienne d'un pilote de chasse. Et puis on verra un peu plus tard le courage et comment nous, on agit et comment on nous apprend à agir dans les situations de risque. Le risque, et on pourrait en parler avec pas mal de points, j'aimerais juste souligner sur ce point deux points essentiels. Dans un avion de chasse, le premier risque que l'on prend, et c'est inhérent à l'activité, c'est celui de perdre la vie. Il y a des risques plus importants que d'autres. Celui-là, il est quand même lourd. Ça veut dire que dans l'activité, je suis obligé de gérer les contraintes, la mission, les objectifs, tout en préservant ma vie. Et là, je rajoute que dans ce risque de la situation, qui est de perdre la vie, je rajoute une source d'erreur qui est moi-même, l'erreur humaine. Je suis dans l'avion, je suis capable de faire des erreurs et de risquer de ma vie. Et donc ça oblige à avoir une appréciation générale de la situation et du risque. Les priorités du pilote de chasse, je les donne parce qu'on pourrait se demander d'ailleurs à certains moments, mais quelles sont-elles ? Petit 1, c'est de survivre dans un avion. Petit 2, c'est de ramener l'avion. Parce que si à la limite on ne réussit pas la mission, on revient avec l'avion et puis une autre mission, on la refera le lendemain. Et 3, enfin, vient la mission. Mais petit 1, c'est survivre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis dans les avions un siège éjectable qui est une sacrée assurance vie parce qu'elle permet, dans le cas désespéré, de pouvoir s'extraire de l'avion.
Vous avez déjà été éjecté, vous, dans l'aventure ?
Alors oui, je me suis éjecté. Alors on pourra en reparler après dans les échanges. C'est évidemment un moment très particulier et c'est celui qui ramène à l'ordre des priorités. Dans l'ordre des priorités, 1, c'est survivre. C'est donc de s'éjecter si jamais on est contraint dans une situation particulière.
Vous pouvez quand même nous en dire deux mots, dans quelles conditions ça s'est passé ?
Bon, rapidement, là vous ne me comptez pas ça sur mon timing. Hein. Si c'était en situation particulière, de nuit, où en fait, avec un autre avion, nous nous sommes heurtés. Et donc l'avion, la collision a eu lieu de nuit et l'autre avion m'a coupé la dérive. Donc bon, sans dérive, l'avion, ça vole beaucoup moins. Et donc j'étais tout seul dans l'avion, mais l'avion est parti de nuit en vrille, sans la dérive, puisque l'avion n'était plus stabilisé. Et donc il ne restait plus que de toute façon à s'éjecter. Mais cette prise de décision, elle relève là aussi d'une appréciation du risque. Bon, là, elle pouvait être assez rapide. Mais deux aussi, dans tous les cas, de la capacité à prendre la décision. Il faut un certain courage. On en reparlera après. Mais c'est une décision. Et c'est pour ça que je lis le risque. Il n'y a pas de risque si on n'agit pas. Si on a une situation qui est risquée, mais je n'ai pas à agir, il n'y a pas de risque. Le risque, c'est au moment où il va falloir agir. Et pour agir, il faut prendre une décision. Un, je prends la décision. Il faut du courage. Et deux, ensuite, j'agis. Et ça, c'est important. Donc cette idée, c'est aussi dans la spécificité du métier de pilote de chasse qu'elle se fait sous forte contrainte et la contrainte temporelle. Ça va vite. On vole à 900 km/h, mais il faut que je décide rapidement, il faut que j'agisse rapidement. Si on est moins stressé, c'est plus facile. Il faudra peut-être le même courage, mais c'est plus facile à gérer le risque. Et donc ça, c'est important quand même, c'est que ce facteur temps que tout le monde vit, quand on est amené à prendre une décision, ben quand on se dépêche pour la prendre, c'est beaucoup plus difficile et on a peut-être moins les capacités à absorber et à gérer, à apprécier le risque. Voilà. Comment gère-t-on le risque ? On reviendra certainement après, mais sachez que ça ne se fait pas facilement. Une formation de pilote de chasse, elle est longue, elle est difficile. Ça passe donc par de la formation. Ça, c'est, on apprend à gérer le risque. Ça s'apprend.
Comment ça s'apprend ?
Ça s'apprend. Alors j'ai envie, ça me vient à l'esprit. C'est ce qu'on appelle souvent la pédagogie de l'erreur. C'est-à-dire qu'on apprend à repousser nos limites. Vous prenez un jeune pilote, on le met dans un avion. Rapidement, on va le saturer. Rapidement, il arriverait à une situation où il pourrait s'écraser. Et donc, on va lui apprendre petit à petit où sont ses limites. Pour l'amener aux limites. Donc on va l'amener à faire des erreurs, à voir ce qui ne va pas, pour que la fois suivante, il se rappelle qu'en faisant ça, ça ne marche pas, et que donc je corrige et je repousse mes limites. Donc c'est un apprentissage de la pédagogie par l'erreur qui a pour objectif de repousser les limites. Les limites, alors on a chacun ses limites, donc on n'a pas tous les mêmes déjà, mais dans tous les cas, le risque, il peut être associé. Il y a un risque objectif et un risque subjectif, on y reviendra dans l'appréciation qu'on peut avoir. Mais c'est évidemment la formation, l'entraînement. On nous apprend aussi à développer des qualités, on reviendra après, j'en ai une qui me vient en tête, l'intuition. Tout semble assez rationnel dans un avion, parce que je vous l'ai dit, on se forme, on apprend, et à côté de ça, il faut toujours se rappeler que dans l'appréciation du risque, il y a une part d'intuition, d'irrationnel.
Parce qu'on aurait l'impression plutôt que vous avez une formation qui est plutôt de l'ordre du réflexe, si on veut dire, face à une situation, quelque chose d'automatique, parce que ça va très très vite et qu'on ne peut pas réagir autrement.
Voilà, il le faut. Il faut qu'on soit standardisé, qu'on soit presque automatisé sur certaines phases, c'est évident. Mais à côté de ça, il y a une part de perception intuitive, irrationnelle, qui fait que vous êtes en vol, vous arrivez à la croisée de deux vallées, la météo n'est pas très bonne, il faut prendre une des deux vallées. Si vous voyez que sur les cartes ça passe, vous dites, vous sentez que non, aujourd'hui il ne faut pas prendre celle de droite. Il faut prendre celle de gauche. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais ça s'acquiert à la fois avec l'intuition et aussi avec l'expérience qui nourrit aussi peut-être cette intuition.
Donc quand bien même vous serez dans un monde du rationnel, de l'organisé, vous êtes quand même dans l'armée, il y a une part, et vous l'appréhendez, vous la prenez en compte, de quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la rationnelle.
Complètement. C'est ce qui peut paraître paradoxal, c'est-à-dire le métier de pilote de chasse, oui, c'est éminemment rationnel, standardisé, on apprend des choses, Et ça se nourrit aussi de cette part. Alors, on parle du milieu aérien, c'est un peu fugitif, mais c'est ça. Parce que dans tous les cas, dans une mission, on ne peut pas tout préparer. Et je reviendrai aussi, c'est un leitmotiv du pilote, c'est il faut savoir, il faut se préparer au prévisible et il faut se préparer à l'imprévisible. Il faut être aussi capable de développer des capacités d'adaptation, parce qu'on ne peut pas tout prévoir.
Et ça, comment on fait ? Comment on se prépare à l'imprévisible ? Parce que ça paraît justement difficilement organisable.
Eh bien, c'est justement aussi, dans ce que j'évoquais tout à l'heure, d'être mis en situation pas préparée, qui va conduire à l'erreur. Donc, comment je gère une erreur que je n'ai pas préparée ? Comment je gère ma réaction, déjà propre, et comment je gère une situation ? Donc ça se fait bah, évidemment avec beaucoup d'heures de vol. Ça se fait pas en 2 heures.
Merci en tout cas pour ces heures de vol et cette expérience qui nous fait effectivement déjà encore plus profondément réfléchir sur cette notion de risque. On va en reparler avec vous. On va maintenant prendre un peu le temps de reposer, d'approfondir les concepts avec vous, Mathilde Neijlen. Bonsoir.
Bonsoir.
Mathilde Neijlen, vous êtes philosophe. Et pour vous, le risque au fond, ça démarre au coin de la rue.
Voilà, colonel URT, vous avez dit le risque n'a lieu que quand on agit. Et en fait, non. D'abord, le risque est inhérent à notre condition d'être humain. Parce que même en dormant, on peut tomber de son lit et on peut mal tomber de son lit et donc mourir éventuellement.
On peut prendre des risques sans rien faire.
Exactement. En fait, on ne prend pas des risques sans rien faire, on subit des risques sans rien faire. Ouais. Et donc, face à ce risque qui est inhérent à notre condition humaine, on va avoir plusieurs attitudes possibles, et notamment une première attitude qui consiste à essayer de se protéger de ces risques. Et donc, par exemple, on va regarder à droite et à gauche avant de traverser la rue. Et notre société est une société même très sécurisante, puisqu'elle nous propose des assurances, une sécurité sociale. Une médecine qui progresse, mais on se rend compte que malgré toutes ces sécurités qu'on met en place face à chaque risque qu'on peut répertorier, le risque subsiste. Et donc, finalement, plus on essaye de se protéger du risque, plus on se sent en danger. Et alors pourquoi ? Parce que justement, quand on va essayer de se protéger du risque, on va énumérer les risques et à chaque fois mettre une barrière de protection, prendre une assurance, prendre une sécurité. Mais finalement, la sécurité sociale ne nous guérit pas forcément et puis les progrès de la médecine ne fait que reporter l'échéance qui nous attend tous, le risque suprême, donc celui de la mort. Et donc, la deuxième attitude, c'est se dire « oui, l'avenir est incertain, je risque à tout instant ». Mais j'ai quand même une marge de manœuvre. Pourquoi ne pas aller au-devant de ce risque en prenant des risques ? Et donc, prendre des risques, c'est à chaque fois que j'agis, effectivement, je suis dans la prise de risque. À chaque fois que je prends une décision, je suis dans la prise de risque. Et donc, en prenant l'initiative du risque, on va en quelque sorte défier ce risque qui est inhérent à notre condition humaine. Voilà, alors dans un deuxième temps sur le risque, j'aimerais distinguer, on l'a un petit peu évoqué avec votre distinction entre risque et courage, une partie objective et une partie subjective du risque. Alors le risque objectif, c'est l'éventail des probabilités qu'on peut établir avant de se lancer dans l'action. Donc ça peut être établi avant, par moi, par quelqu'un d'autre, par une équipe.
On en fait l'inventaire.
On en fait l'inventaire, exactement. En revanche, je peux être conscient de tous ces risques. Quand je vais me lancer dans l'action, finalement, c'est ma perception qui va compter. C'est moi, en tant que sujet, qui me lance dans l'action, qui perçoit le risque que je prends. Alors, je vais vous donner un exemple qui est beaucoup moins aventureux, ou ce n'est pas du tout un exploit par rapport à nos autres intervenants de ce soir. Mais la semaine dernière, je skiais avec mon mari, et nous sommes arrivés en haut d'une piste noire, un mur très très raide, et là il me dit « vas-y, ça ne risque rien ». Donc « ça ne risque rien », c'est l'exemple du risque objectif, parce que tout est contenu dans le « ça ne risque rien ». Qu'est-ce qu'il a évalué ? La neige est bonne, il n'y a pas de verglas, on n'est pas trop mauvais en ski, il n'y a personne sur la piste. Bon, on risque pas, enfin la mort ne nous. Voilà, les risques sont assez faibles, on peut se lancer. Alors, très bien, donc ça ne risque rien, c'est le risque objectif qui est évalué, on peut se lancer. Mais moi, face à ce vide qui était devant moi, moi, je risquais tout à ce moment-là. Et en fait, ce qui était contenu dans ce tout, bien sûr, je savais que j'allais pas mourir, mais en fait, c'est toute la personne, c'est toute la peur que j'avais qui était contenue dans ce tout. Et en me lançant dans cette situation qui m'effrayait, finalement, d'une certaine façon, je mettais à mort la personne que j'étais qui confortablement avance, qui est sur des pistes bleues. Voilà. Donc c'est pour cette idée de distinguer d'un risque objectif et d'un risque subjectif, et qui peut être utile aussi, on en parlera après, dans la gestion du risque en entreprise, puisqu'on a beau évaluer tous les risques, finalement, ça sera toujours la perception d'une personne qui se lance dans l'action qui constituera le véritable risque, et le risque ne pourra être évalué, n'apparaîtra que dans l'action, que par la personne qui va se lancer dans l'action. Un petit mot sur le courage, peut-être ?
Votre définition du courage.
Ma définition du courage. Alors,
parce qu'avec le colonel Huarte, on a vu que c'était pas forcément lié, ou que ça pouvait être justement opposé, puisque l'un lié à l'agir et l'autre à l'être, si je dis pas de bêtises.
Voilà, alors sur le courage, j'ai lu des très belles pages que je vous recommande dans le Traité des Vertus de Jean Kelevitch, qui dit un point important sur le courage, c'est que le courage, c'est la vertu du commencement. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de nous lancer dans l'action. Et le courage demande un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'on n'est pas courageux une fois pour toutes. On doit à chaque instant montrer qu'on est courageux. Et quand je me lance dans l'action, cela me demande du courage. Mais quand je persévère dans l'action, cela me demande tout autant de courage. Donc ça, c'est un point qui est important. Et finalement, on peut se dire que c'est dommage, pourquoi ne pas être courageux une bonne fois pour toutes ? Mais je pense qu'au contraire, c'est une opportunité qu'on a à chaque fois de remontrer qu'on peut faire preuve de courage. Et justement, notre condition humaine est à double tranchant. D'un côté, on subit un risque, mais d'un autre côté, ce risque qu'on subit nous laisse l'opportunité de nous montrer courageux. Voilà.
Est-ce que être courageux, c'est refuser de prendre un risque ?
Alors, ça peut tout à fait refuser de prendre un risque objectif, évalué objectivement comme dangereux.
RCF, Philippe Lansac.
Bienvenue sur RCF. Si vous nous rejoignez, on parle courage, on parle prise de risque ce soir. Prise de risque jusqu'où ? C'est la question que nous nous posons pour cette soirée spéciale au Collège supérieur. Nous avons posé nos studios dans le cadre du cycle de conférences vie professionnelle, quelques repères. Autour de la table, un alpiniste, Henri Bizot, un pilote de chasse, le colonel Bernard Huarte, et une philosophe, Mathilde Nejlen. Ce qui est bien, c'est qu'avec vous, on s'est promené dans la cordillère des Andes, on s'est promené dans les airs, on s'est promené dans les concepts. Il y a une question qui m'a interpellé en vous écoutant tous les deux, Henri Bizot et Bernard Huarte, c'est au fond, vous qui allez dans les sommets, dans ces avions qui vont très vite, est-ce que vous recherchez le danger, en fait, Bernard Huarte ?
Alors, pardon, la recherche du danger, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans la pédagogie, qui est un outil pour justement nous permettre de faire face aux situations qu'on sera amené à rencontrer, on nous amène sciemment dans le danger. On nous amène à repousser les limites, puisqu'on va nous apprendre jusqu'où aller, et donc aller jusqu'au danger. Quand c'est facile...
Aller le toucher.
Voilà, quand c'est facile, on progresse, mais beaucoup moins que quand c'est difficile. Donc on va aller repousser le danger. Non, on ne va pas repousser le danger, on va repousser les limites, parce que le danger est toujours là. En revanche, lié au danger, j'aimerais aussi peut-être évoquer la notion de peur. C'est-à-dire, est-ce qu'on se fait plaisir à avoir peur ? Certainement pas. En revanche, il est évident qu'on a peur. On a peur, on n'a pas peur dans la réalisation. Quand on est dans un avion, on est tellement absorbé par la réalisation de la mission, on n'a pas peur à ce moment-là. En revanche, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas avoir peur, parce que la peur, c'est quand même le warning qui fait dire « attention, tu es en train de faire quelque chose qui ne va pas » ou que tu es en train de toucher tes limites. Donc je pense que la peur est nécessaire parce qu'elle nous permet de rester en vie. De même, l'image de cette... j'aime bien les métaphores animales, mais une antilope au bord d'un lac qui boit, je pense que heureusement qu'elle a peur et qu'elle est aux aguets pour pour voir arriver, même en la sentant, le prédateur qui va lui sauter dessus. Donc il faut avoir peur, c'est ce qui va lui permettre de réagir et de survivre. Donc comme je vous disais tout à l'heure que nous, dans un avion, dans notre priorité 1, c'est survivre, évidemment que là, le sentiment de peur va nous permettre de préserver notre survie.
Henri Bizot, vous avez peur quand vous grimpez la cordillère blanche ?
Bien entendu, oui, tout à fait. Quand on pratique l'alpinisme, on a peur. Je dirais que la peur est humaine. Hein. Tout le monde a peur et je dirais que c'est important d'avoir peur parce que c'est justement peut-être ce qui peut permettre de représenter un danger pour soi-même et pour le risque de l'accorder. Je dirais que c'est comme toute la vie. Vivre, c'est prendre des risques, et prendre des risques aussi, c'est vivre. Et l'incertitude et la prise de risque sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Et donc, bien entendu, qu'on a peur. Maintenant, ce qui est très important, ce qui est essentiel pour vivre, c'est de pouvoir surmonter ses peurs et surmonter sa peur. Il y a les peurs quotidiennes, enfin telles que je ressens hein, sur la vie. On a nos peurs quotidiennes, la société nous en crée quotidiennement, et puis on s'en crée aussi régulièrement. Et puis il y a une peur majeure qui est la peur de la mort. C'est la seule certitude qu'on a, et c'est une certitude pleine d'incertitude, puisqu'on ne sait ni quand, ni comment, ni ce que sera l'au-delà. Donc maintenant, maintenant chacun gère ses peurs et cette peur à sa manière, suivant sa personnalité, suivant ses convictions philosophiques, religieuses. Mais ce qui est essentiel pour vivre, à mon sens, c'est de pouvoir surmonter ses peurs et surmonter sa peur. À défaut, on ne vit plus, on n'agit plus, on ne progresse plus, on perd toute liberté d'esprit et toute générosité. Il y a une phrase qu'a dite Jean-Paul II, que tout le monde connaît ici, d'ailleurs qui est citée à de nombreuses reprises dans l'Ancien et Nouveau Testament, « N'ayez pas peur ». En haute montagne, c'est pareil. Quand on est face à un danger, on a peur. Et qu'est-ce qu'il faut ? Il faut pouvoir surmonter sa peur pour pouvoir avoir toute liberté d'esprit et toute liberté de jugement pour apprécier à sa juste valeur le danger et aussi pouvoir sortir de soi-même, échanger avec l'autre afin que émerge de cette cordée une décision qui soit, sur le plan des probabilités, la meilleure possible.
Mais Henri Bizot, vous dites, enfin, et on l'a vu avec Bernard Huberté, que la peur est une alerte, au fond. En revanche, ça peut être quand même une drogue. Enfin, on parle d'une espèce d'adrénaline du riche. Je pense aux gars qui se jettent de montagne, qui font du base jump, aux gens qui grimpent à des immeubles à main nue. Et est-ce qu'il n'y a pas justement un risque, d'une forme de drogue, d'une forme d'adrénaline auquel on devient dépendant et qui fait qu'effectivement, la peur ne devient plus une alerte. Henri Bizot, puis ensuite Bernard.
À titre personnel, et je pense que c'est vrai avec toutes les personnes avec qui je suis parti depuis 30 ans, je ne recherche pas le danger, je mets tout en œuvre, je mets toutes les priorités pour éviter l'accident. Maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse sur cette activité de la haute montagne rapidement. Je pense qu'il y a une fausse idée, voire des préjugés qui circulent sur cette activité et idées qui sont relayées notamment par les médias, je parle des médias grand public, parce que si on regarde depuis ces 10 derniers mois, on ne parle de cette activité quasiment uniquement quand il y a un accident, l'effet du catastrophisme. Mais en fait, c'est nullement la majorité des cas. Et on ne parle jamais de tout ce que peut apporter cette activité, qui est en soi, en quelque sorte, comme d'autres activités, une école de vie. Et on ne parle jamais des superbes ascensions qui sont réalisées chaque année. Donc je pense qu'il y a une fausse idée qui circule. Ça, c'était juste un préalable. Mais sinon, personnellement, donc je vous le disais, je recherche nullement le danger. J'ai beaucoup de choses que je cherche en haute montagne. Mais s'il n'y avait pas de danger en haute montagne, je dirais que c'est comme dans toutes les activités, on serait dans un monde idéal. Mais chaque activité a ses dangers. Hein. Est-ce que je prends plus de risques en allant en haute montagne, en étant préparé physiquement, c'est très important, en ayant un bon comportement, en ayant, je dirais, un état d'esprit et des valeurs, qu'en prenant ma voiture le matin et m'exposant aux aléas de la conduite, de ma propre conduite et de celle des autres, personnellement,
c'est le risque au coin de la rue, quoi. Bernard Arthé, est-ce qu'il existe une dépendance à la peur, à la frousse, à l'adrénaline, au fond ?
Alors, sans parler de peur, parce que je ne sais pas si on est peur addicted ou si on a peur et qu'on aime ça, mais il y a, je pense, lié à cette recherche de situations où l'esprit est mis en activité intense. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que je fais un parallèle dans un avion. Oui, on réfléchit tout le temps et oui, ça va très vite. Il y a un petit dicton qui dit, en gros, excusez-moi, ce sont des termes qui passeront à la radio, mais si tu t'emmerdes dans un avion, dis-toi que ça va merder. C'est-à-dire qu'il est évident que si on s'embête, c'est qu'on est en train de louper quelque chose. Et donc, il faut toujours être aux aguets. Et on est donc aux aguets. Ça veut dire qu'on a cet attrait de la situation qui pulse et qui fait qu'on est vif. Maintenant, ce n'est pas la peur qu'on recherche. C'est l'esprit qui travaille.
Mathilde Nagelen.
C'est vrai qu'on se demande pourquoi on se lance dans des situations pareilles, pourquoi on se met dans des positions qui nous d'inconfort pareil. Alors je me suis posé cette question et en fait je me suis dit que en se mettant dans une situation d'inconfort, en quittant une situation de confort, on va donc côtoyer d'une certaine façon une mort symbolique, la mort de la situation confortable dans laquelle on était. Et donc, on va se sentir pleinement vivant d'avoir côtoyé la mort. J'ai ce sentiment-là. Et effectivement, si on reste dans cette logique-là, de se sentir pleinement vivant d'avoir côtoyé la mort, il peut y avoir une dérive, peut-être, de personnes, de sportifs de l'extrême qui vont... se sentir vivant uniquement quand ils sont en danger. Et il y avait un exemple notamment d'un surfeur, j'ai pas le nom en tête là, qui est mort il y a pas très longtemps, qui est un surfeur de l'extrême qui tentait toujours plus des situations périlleuses et finalement il a rejoint ce à quoi il aspirait. Il pouvait pas finir autrement que de mourir en surfant.
Alors Bernard Huerté, vous êtes représentant du ministère de la Défense auprès du MEDEF, auprès des entreprises. Et on va, si vous voulez bien, parler un tout petit peu de la manière avec laquelle vos expériences d'expédition ou en vol peuvent apporter quelque part quelque chose au chef d'entreprise. Moi, il y a une question qui m'intrigue, c'est que quand on prend un risque, et vous le disiez tout à l'heure, c'est lié à une décision, souvent on prend une décision, alors ça peut être une décision collégiale, comme vous le disiez Henri Bizot, dans une cordée où on décide ensemble de s'arrêter. Mais souvent, quand on prend un risque, c'est aussi qu'on prend une décision contre les autres. Dans l'idée que on peut avoir raison tout seul. Et ça peut être un acte de courage, d'ailleurs. Est-ce que c'est inhérent, quelque part, à la prise du risque? Quelque part, à un moment, il faut décider contre, Bernard Huerté.
Oui, alors décider, c'est le propre, je vais prendre un terme, c'est le propre du commandement. Alors on le nommera comme on voudra. Et d'ailleurs, pour faire un parallèle avec le monde de l'entreprise, le management, le commandement, on reviendra après, vous me poserez peut-être une question. Quelle différence y a-t-il entre le commandement et le management? Il y en a une, hein. Enfin, j'ai au moins ma définition. Mais évidemment, au moment où on commande, on est amené à prendre une décision, eh bien on affirme son autorité. C'est à ce moment-là qu'on prend la décision. Ça, c'est le premier point. Veuillez m'excuser, oublier le début de la question, qui était...
Prendre décision, effectivement, contre.
Contre. Bien sûr qu'on peut...
Contre tout le monde. Hein.
Contre tout le monde. Il faut s'affirmer. Alors maintenant, je pense que... Et ça, c'est toute décision qui est faite en collectif. Si je reprends l'image aussi, dans un avion de chasse, on est certes tout seul, mais évidemment, c'est une mission éminemment collective. C'est qu'on est déjà, petit 1, en patrouille constituée. On vole jamais seul, on vole à deux. Et on engage d'ailleurs, on prend un risque et pour soi et pour son équipier. Le leader d'une patrouille va engager une patrouille de deux avions. Donc il risque aussi la vie, la sienne, mais aussi celle de son équipier. Maintenant, on peut être amené dans une prise de décision, soit à s'affirmer, comme c'est comme ça, mais aussi à savoir écouter. Et c'est là qu'on rebondit, je vous en avais parlé, dans la phase de doute. C'est-à-dire que... le doute est salvateur. Si on reste enfermé sur un choix ou si on ne sait pas sortir d'une erreur, je reviens à la notion d'erreur, on risque de mourir. Donc il faut savoir écouter l'autre, il faut être surtout capable de se remettre en cause. Et donc on peut être contre et puis peut-être même être contre soi-même. C'est à un moment revenir sur ce qu'on a pensé. Ça, c'est le plus difficile.
Oui, Mathilde Nagelen, là, on a mélangé le concept de doute, d'hésitation avec la prise de risque. Comment vous analysez le rapport entre les deux, justement?
Doute et prise de risque. Effectivement, je pense que dans la prise de risque, il y a deux moments. Et ce moment est signifié par le doute. En fait, il est nécessaire de se remettre en question pour se lancer dans la prise de risque. Et dans la remise en question, donc, voilà, y a l'idée de doute qui est nécessaire. Et notamment quand vous vous lancez dans l'action, quand vous êtes, j'imagine, en vol, vous bénéficiez de ce doute et vous ne savez pas tout. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cet espace de doute, si vous saviez tout ce qui vous attendait, peut-être que il n'y aurait pas d'action. Et en fait, c'est justement cet espace de doute qui vous permet de faire le saut de l'action.
Henri Bizot, comment on gère le doute quand on est justement face à un sommet, et vous nous l'avez évoqué tout à l'heure, dont on doute fondamentalement qu'on puisse le grimper?
Alors, je voudrais dire deux caractéristiques. Il y en a une qui est commune avec Bernard, c'est que dans la vie courante, je dirais qu'une erreur peut se corriger, voire faire l'objet de compromis. Une erreur, tout du moins en haute montagne, je pense que c'est pareil, j'en suis même sûr, peut avoir des conséquences graves. La deuxième chose qui est bien caractéristique, je parle en haute montagne, c'est qu'on est ensemble sur une... Normalement, on est encordé, c'est-à-dire ensemble sur une même corde. C'est-à-dire, quand on est face à un danger, soit on estime que la probabilité d'occurrence du risque est suffisamment faible pour faire face au danger et poursuivre vers l'objectif, soit on estime que bon, le danger est trop fort. À ce moment-là, on décide de renoncer. Je voudrais signaler une chose, c'est que, c'est à propos du mot courage, tout du moins en montagne, il faut être courageux pour décider de poursuivre, donc de faire face au danger et de monter en haut de la montagne et en redescendre. Mais il faut être encore plus courageux pour décider de renoncer et de redescendre. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a de longues années de préparation, il y a tout un déplacement depuis Paris, il y a une expédition qui est souvent lourde parce qu'il faut s'acclimater, donc monter des camps, faire des allers-retours, passer de longues journées dans la tente pour s'acclimater, etc. Donc c'est vraiment une décision difficile à prendre. Je le disais, la prise de risque est inhérente à toute prise de décision et je dirais qu'elle est directement liée à la part d'incertitude qu'on a sur l'événement. Donc, dans toute décision, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois diminuer la part d'incertitude pour augmenter la probabilité de chance que ma décision soit la bonne. En haute montagne, quand on prend une décision, je parle ce que j'en ressens, c'est qu'il y a une part objective et une part subjective. La part objective, c'est qu'on est ensemble sur une même corde, on est face à un danger, on doit analyser le danger. Ça, il y en a peut-être un qui sera plus expérimenté que l'autre, parce qu'il est guide ou non guide, peu importe, plus expérimenté. Mais les deux doivent avoir une part active. Pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'il y en a un qui sera peut-être plus faible physiquement sur le moment, ou plus faible techniquement, donc là, il y a l'esprit d'entraide qui peut marcher. La deuxième chose, c'est et qui est essentielle, c'est que on le connaît tous dans nos activités. Quand on est autour d'une table, par exemple, on parle d'un sujet technique, c'est peut-être la personne qui connaît le moins le sujet qui apportera l'éclairage auquel les autres n'auront pas pensé. Et le troisième point qui fait que c'est très subjectif, c'est que quand on est face au danger, il faut que chacun dise la part de risque qu'il est prêt à prendre, vu les conséquences que ça peut avoir. C'est-à-dire, ça dépend de sa personnalité, ça dépend de la personnalité de chacun, ça dépend du vécu de chacun. Et ça, c'est très intime, c'est très personnel. Donc, il faut que chacun participe à cette décision. Et en finale, de toute façon, ce sera la décision de l'accorder, parce qu'ensemble, on continuera ou ensemble, on fera demi-tour, comme les exemples que j'ai montrés tout à l'heure.
Alors, vous évoquiez l'accorder, je pense au premier de cordée, Henri Bizot. Comment et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire prendre un risque à quelqu'un qui est dans cette cordée, vous vous dites, bah, pour moi, ce risque, il est peu risqué, excusez-moi de le dire comme ça, mais je sais que je peux passer facilement. Là, je sais que cette personne, je lui fais prendre un risque, mais qu'elle en est capable. Est-ce que c'est prendre aussi, ça peut être le fait de prendre une décision à la place de quelqu'un d'autre ? Comment on gère la prise de risque des autres ?
Moi, j'ai jamais vécu de situation, en fait, où on a eu une discussion qui était conflictuelle. Je prenais les exemples de il y a quelques instants. Ben, on décide ensemble de ne pas poursuivre. Et en général, je dirais que c'est celui qui décide de ne pas poursuivre qui emmène l'autre, parce que son compagnon de cordée ne va pas l'obliger à poursuivre. Donc, personnellement, à titre personnel, que je sois avec un guide ou un non-guide, je n'ai jamais connu une telle situation.
Bernard Huertet.
Oui, alors je reviens sur un élément que j'ai évoqué tout à l'heure. Dans les contraintes, dans l'appréciation du risque et d'une situation, il y a un facteur qui est essentiel, c'est le facteur temps. C'est-à-dire que quand on a le temps, on peut discuter et on peut trouver une position consensuelle qui faudra revenir, reprenant la situation au moment, la cordée, elle va s'interroger et puis elle va prendre une décision. Nous, on a une vraie, véritable contrainte, c'est qu'à 900 km/h, on n'a pas le temps. Et qu'on a, j'aime bien les adages, donc vous en aurez certains de pilotes, il vaut mieux une mauvaise décision que pas de décision du tout. Ça veut dire que dans l'avion, il faut à un moment prendre une décision. Et cette décision, on n'a parfois pas le temps, objectivement, de l'analyser à 100% et de complètement la mesurer. Petit 2, de la confronter à l'autre, à son équipier, qui pourrait en effet très positivement l'enrichir, mais on n'a pas le temps. Et donc, on va prendre une décision. Et cette décision, pour répondre à la question que vous posiez à Henri Bizot, oui, on peut être amené à prendre un risque pour l'autre, en ayant une prise de risque qui dit « ça passe pour moi », lui, ça passe peut-être moins, mais ça passe, puisqu'il faut quand même que dans tous les cas, on assure la sécurité de l'ensemble. Donc oui, on est amené parfois à prendre des décisions qui dépassent largement le cadre de sa propre capacité. On intègre la seconde et on peut l'imposer à l'autre. Ça, c'est évident.
Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue en vous écoutant, Bernard Marté et Henri Bizot, c'est que nous tous qui sommes là ou qui écoutons cette émission, des risques comme ceux que vous prenez, on n'en prend a priori pas beaucoup, même si j'ai bien entendu de la part de Mathilde Denagelaine qu'on prenait des risques même en dormant ou en se levant le matin. Mais c'est en quoi l'expérience du risque que vous avez, qui est inhérente à vos activités, en quoi cette expérience, elle peut être transmissible, elle peut être transmise à d'autres, à des gens comme nous qui faisons des choses banales ou à des chefs d'entreprise, par exemple, Bernard Marté?
Alors là, je vais m'appuyer un petit peu sur l'expérience professionnelle que je vis aujourd'hui et l'expérience que j'ai auprès du MEDEF, mais en fait du monde de l'entreprise en général. Moi, je fais un parallèle assez simple entre le manager, le chef d'entreprise, et puis le militaire. Sur le premier point, c'est que vous, dans cette salle, il y en a certainement qui sont managers, qui sont chefs d'entreprise, qui sont en responsabilité. Vous êtes amené à prendre des décisions. Une décision, je reviens, c'est agir dans une situation où on apprécie un risque. Cette décision-là, nous, c'est notre métier. Et là, on peut voir qu'on nous apprend. On n'apprend peut-être pas toujours à tous les managers à prendre des décisions. Dans les écoles de management, on apprend peut-être beaucoup de choses, mais pas forcément à décider, peut-être pas forcément à gérer la pression, à gérer le stress. La gestion de crise, c'est à mon avis évidemment ce que tout le monde dans une entreprise connaîtra un jour ou l'autre. Eh bien, dans la crise, c'est quand il y a le stress, donc le temps qui arrive et qu'il faut prendre une décision que c'est plus difficile. Donc évidemment, là, il y a des parallèles très intéressants. Et j'en veux pour preuve, il y a un comité management qui s'est mis en place au MEDEF où on travaille beaucoup avec ces parallèles, où d'ailleurs, on apporte et on apprend. Parce que ce qui est assez paradoxal, c'est de voir que dans certaines situations, ce qui peut paraître évident dans mon expérience, surprend les autres et dit « Ah oui, expliquez-nous ça, ça paraît
par exemple. »
Je n'ai pas d'en-tête parce qu'il y en a tellement. Mais... Et dans l'autre sens, pareil, il y a des modes de management et des modes de fonctionnement qui me paraissent très performants dans l'entreprise, dans des formes d'appréciation de situation et de décision, et que nous, finalement, on pourrait aussi prendre comme source d'inspiration.
D'ailleurs, Bernard Watté, avant d'entendre Henri Bizot, vous disiez qu'il y a une différence entre management et commandement. Vous nous la révélez quand même, cette différence en deux.
Alors, moi, je donne comme définition que, justement, le commandement, pour moi, c'est le management en temps de crise. C'est-à-dire, en temps de paix, quand ça va bien, on fait du management. En temps de crise, quand on est en situation de stress, où le temps est compté, où il faut prendre une décision et où parfois on ne peut plus discuter, ni partager, échanger, avoir un consensus, convaincre, on n'en est plus là, et bien là on commande, c'est-à-dire on donne un ordre. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut imposer une situation en temps de crise ou quand ça va vite dans un avion, mais tout cela ne pourra pas être fait si on n'a pas préparé cela en temps de paix, en temps calme, si on n'a pas obtenu la légitimité. Je suis compétent, et pas simplement une histoire de grade, c'est pas ça. C'est la compétence et la légitimité, et donc la confiance. Si vous avez vos collaborateurs, vos subordonnés qui ont confiance en vous, ils vous suivront en temps de crise.
Henri Bizot, comment transmettre votre expérience du risque et de l'appréciation du risque en milieu extrême à des gens comme tout le monde?
Je suis comme tout le monde, hein, je serais très modeste.
Pas tout à fait.
Et non, cette activité de l'alpinisme, c'est né à titre volontaire et conscient. Hein, je dirais qu'il faut aimer. Et puis, personnellement, j'interviens en entreprise. Je répondrai de ce que je fais uniquement. J'interviens en entreprise sur des sujets divers. Et c'est vrai que la prise de risque est un sujet de fort intérêt pour l'entreprise et d'ailleurs pour toute la société. Et je préciserai que j'interviens en tant que personne qui pratique à titre amateur l'alpinisme, les expéditions en haute montagne, et uniquement à ce titre, avec bien entendu un background de mon expérience professionnelle. Et ce qui m'intéresse, c'est de laisser les personnes qui sont de l'assistance s'approprier le sujet et essayer de découvrir par elles-mêmes les enseignements qu'elles peuvent en tirer. Et j'avoue qu'après une conférence où je présente deux films, et notamment le film sur l'expédition là, que j'ai rapidement raconté, parce que je pense qu'il est riche d'enseignements, enfin, je pense plutôt, c'est les retours d'expérience que j'ai eus, on a un échange. Donc je m'appuie hein, sur ces films, hein, c'est des supports pédagogiques pour répondre à la question posée. Et après, on a un échange. Moi, ce que j'ai toujours trouvé ça extrêmement constructif. Et il y a des personnes qui découvrent des enseignements auxquels, personnellement, je n'aurais même pas pensé. Il y en a un qui me vient à l'esprit. Et d'ailleurs, ce n'était pas qu'une personne, c'était plusieurs personnes. Donc c'était assez intéressant, c'est la notion de camp de base. Et les personnes de l'entreprise, c'était un groupe industriel, ils s'étaient approprié cette notion de camp de base en disant « mais c'est intéressant parce que c'est un lieu de convivialité où on peut échanger à la fois sur des sujets non professionnels, mais aussi sur des sujets professionnels. » Parce que parler de sujets non professionnels dans une enceinte ou un lieu, où ça peut être géographique ou temporel, hein, ou je dirais qui est convivial, c'est je dirais que la conversation peut être différente. Donc, ça a toujours été riche d'enseignements.
Mathilde Neigelen, pour conclure notre conversation de ce soir, cette question de la transmission, de l'expérience, de la gestion de la prise de risque, comment l'appréhender?
Alors, c'est délicat parce que justement, vous avez dit, colonel Huarté, que la décision, c'était votre métier. Enfin, on peut dire un slogan comme ça. Et en fait, la décision, justement, ne s'apprend pas, ne s'enseigne pas dans les écoles, puisque la décision, c'est toujours la décision d'un sujet qui va se lancer, qui va prendre un risque. Et c'est pour ça qu'on distingue la décision du choix. Le choix, c'est l'image du catalogue. On va choisir entre différentes options et on va opter pour le meilleur choix. Mais la décision, c'est toujours l'engagement d'un sujet qui va prendre un risque. Et donc, c'est pour ça que finalement, il peut y avoir une transmission de la prise de risque et du courage, mais ça passe nécessairement par une conversion de la personne au courage, à la prise de risque.
Voilà, bah j'espère que nous serons convertis ce soir au courage pour mieux appréhender les risques auxquels nous faisons face. Immense merci à vous trois, merci à vous Mathilde Neigelen, merci Henri Bizot et le colonel Bernard Huarté. Un grand merci aussi à Florence Kraut du Collège supérieur sans qui ce débat n'aurait pu avoir lieu. Merci à Pascal Gauthier qui était à la technique ce soir. Et puis si vous voulez plus d'informations sur ces conférences du Collège supérieur, un site internet www.collegesupérieur.com. Et puis si vous souhaitez réécouter ou partager avec vos amis cette émission, www.rcf.fr ou la télécharger en podcast sur notre application smartphone et iPhone. Bonne fin de journée à l'écoute des programmes de RCF. On retrouve tout de suite Lucie Baverelle.